du haut et du bas, du bien et du mal.
Hervé Kempf, il y a un dessin de Plantu qui vous représente en train de rebondir. Vous quittez le monde et vous rebondissez vers Report Terre. Mais je voudrais quand même qu'on revienne en arrière sur votre enquête sur Notre-Dame-des-Landes, qui est quand même, ça a été la pomme de discorde. C'est là-dessus que ça a clashé. Et il y a un moment quand même, vous avez découvert, enfin vous avez mis en lumière, vous avez été le premier à montrer le rôle d'un certain préfet dans cette histoire. Et beaucoup d'entre nous ont repris cette histoire. Là-bas, si j'y suis, par exemple, et d'autres confrères, hop, ont sauté là-dessus. Et puis surtout, d'abord, les militants de Notre-Dame-des-Landes ont sauté sur cette information. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu de quoi il s'agissait ?
Eh bien, Monsieur Agolstine, qui était pendant 2 ans préfet de Loire-Atlantique, donc en charge de la préparation de l'appel d'offres du projet d'aéroport entre les différentes compagnies soumissionnaires. Ensuite, il a quitté ce poste. L'appel d'offres a suivi son cours et la compagnie Vinci a remporté cet appel d'offres. Et 1 ou 2 ans plus tard, M. Agolstine a fait valoir ses droits à la retraite et a été embauché comme conseiller du président de Vinci Autoroute, si j'ai bonne mémoire. Bon, tout ça est écrit. Ça, c'est un fil. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire, même si M. Agolstine, que j'avais interrogé, j'ai discuté avec lui au téléphone, considérait que c'était parfaitement légal, ce qui était exact, et considérait que ça n'était pas un conflit d'intérêts, et à mon sens, là, on pouvait penser l'inverse, ça révélait qu'il y avait des intérêts économiques, il y avait en tout cas des questions fortes à se poser autour de ce projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Quelques semaines après, j'ai pu faire, essentiellement par l'intermédiaire de la chronique, puisqu'il m'était interdit de travailler dans le journal, mais là, donc, dans l'espace des 2600 signes de la chronique, en page 15 ou 16, enfouie, une autre enquête sur, en m'appuyant sur le travail de contre-expertise des opposants à Notre-Dame-des-Landes, qui était très sérieux et précis, montrait que un point fondamental du dossier d'enquête d'utilité publique avait été très largement extrapolé et avait des bases, sinon fausses, en tout cas extrêmement discutables. Après, moi, ce que je voulais dire au journal qui m'a empêché de poursuivre ce travail, c'est qu'il y avait un travail d'enquête. Il y avait des fils à tirer. Je ne sais pas à quoi conduit une enquête. On ne sait jamais quand on fait une enquête. Et l'avantage des grands journaux, c'est que moi, il m'arrivait de passer 1 mois sur une enquête. Je faisais aussi mon boulot par ailleurs. Et puis, ça venait pas, peut-être 2 mois. Et puis non, ça marchait pas. Le truc était pas bon. Et ben voilà. Là, je leur demandais, écoutez, je pense, le fil Agolstine, le fil Vinci, le fil plus général des partenariats publics-privés, le fil des lobbies, employons le mot, des grands travaux d'infrastructures méritaient d'être suivies. J'avais déjà fait une grande enquête que j'avais pu faire dans les journaux Le Monde sur l'A65, l'autoroute A65, une autoroute totalement absurde, inutile entre Pau et Langon, dans le sud-ouest de la France. Et là, d'ailleurs, j'avais commencé à tirer des fils. Voilà, je demandais simplement à chercher à tirer ce fil, et puis aussi raconter sur place ce qui se passait à Notre-Dame-des-Landes, qui était un autre objet d'enquête qui est absolument passionnant à tout point de vue.
Village en danger, Vinci déporte la population. Alors ça, c'est écrit sur le toit d'un petit cabanon.
Trafic, info, musique.
Vous êtes dans le 12-14.
Radio Vinci Autoroute.
Voilà l'histoire de ce journaliste, Hervé Kempf, donc, qui quitte le journal où il a travaillé depuis 15 ans. Évidemment, au sein du journal, ça n'a pas été sans réaction de la part de l'encadrement du journal, de la part aussi de la société des rédacteurs du Monde, ulcérés de lire dans le quotidien Libération que Hervé Kempf dit par des moyens surtout indirects, c'est-à-dire en nommant une hiérarchie compatible avec leurs idées, influe sur l'orientation des médias qu'ils possèdent. Donc il voit derrière, enfin, ces BNP, c'est-à-dire Berger, Nil et Pigasse, qui sont détenteurs depuis 2010 du capital à 63,8%, une orientation du journal qu'en fait, tout simplement, il désapprouve. Alors on va essayer d'équilibrer un peu les points de vue en appelant au téléphone Didier Pourquerie du Monde.